Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longué pour ce bulletin d'ONU Info. À la une, l'impact de la Covid-19 sur des dizaines de millions de personnes tombées en 2020 dans l'insécurité alimentaire aiguë. À l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée, l'ONU appelle à investir dans les sages-femmes. Et puis l'astronaute français Jean-François Clairvoy nous expliquera en quoi consiste la vie quotidienne de Thomas Pesquet et de ses coéquipiers à bord de la Station Spatiale Internationale. En 2020, 155 millions de personnes sont tombées dans l'insécurité alimentaire aiguë, niveau le plus élevé en 5 ans. C'est ce qu'indique le rapport annuel publié aujourd'hui par le Réseau mondial contre les crises alimentaires. Pour Luca Russo, chargé des urgences et de la réhabilitation à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, trois facteurs expliquent cette hausse de l'insécurité alimentaire. On l'écoute.
Nous, on commence à utiliser ce mot de « un mélange toxique ». Dans le sens qu'il y a trois facteurs qui sont les plus importants et la question des conflits reste de loin la plus importante. Quand je parlais des 155 millions, bon, il y en a presque 100 qui vivent dans des pays avec des conflits. Mais ces problèmes ne viennent jamais tout seuls. Donc, vous avez les conflits, vous avez les crises économiques qui ont été amplifiées grandement cette année à cause du Covid. L'année dernière, par exemple, on estimait qu'il y avait plus ou moins 20 millions de personnes qui étaient en crise alimentaire, surtout pour des questions économiques. Maintenant, ça a plus que doublé cette année parce que bon, c'est justement un effet direct ou indirect du Covid. Et puis, les questions climatiques. Les questions climatiques, bon, cette année, c'est, entre guillemets, ça a été un peu mieux parce qu'il y a eu moins de sécheresse par rapport à l'année dernière. Donc, c'est trois choses qui se mélangent ensemble, qui d'une façon ou d'une autre, font que la situation est très difficile à affronter parce que c'est très complexe.
La communauté internationale appelle à investir dans les sages-femmes et ce, à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, estime que si les soins qu'elles dispensent bénéficiaient d'une couverture de santé universelle, cela permettrait d'éviter plus de 60% des décès maternels et néonatals ainsi que des morties naissances. Petra Tenhoop-Bender, conseillère technique en santé reproductive de l'UNFPA.
Le monde a besoin de 900 000 sages-femmes supplémentaires, surtout dans les pays à faible revenu et en Afrique. Et à la tendance actuelle, il manquera en 2030 toujours et encore 750 000 sages-femmes. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin? On doit améliorer l'environnement de travail, la planification, la gestion des effectifs du personnel de santé. On doit aussi améliorer et donner plus d'accès à l'enseignement et la formation de qualité des sages-femmes. Les prestations de services par les sages-femmes doivent être améliorées, mais pas seulement avoir plus de sages-femmes, mais aussi avoir plus de leur influence dans le développement des services publics, dans la recherche, dans l'enseignement, et aussi pour avoir des politiques relatives à leurs soins qui sont guidées et menées par les sages-femmes mêmes.
Le 12 avril 1961, Youri Gagarine effectuait le premier vol spatial habité. 60 ans plus tard, le 23 avril dernier, le Français Thomas Pesquet et trois autres astronautes ont rejoint la Station Spatiale Internationale. Pour mieux comprendre comment se passe la vie à bord de la station, Alexandre Carrette a tendu son micro à l'astronaute français Jean-François Clairvoy de l'Agence Spatiale Européenne.
La Station Spatiale Internationale, c'est un laboratoire de recherche qui intéresse tous les domaines de la science puisque tous les phénomènes en physique des fluides, physique des matériaux, physique des particules, chimie, biologie, physiologie, animale, végétale, médecine, astrophysique, ont quelque chose d'intéressant à faire en apesanteur. Les astronautes ne sont pas ceux qui font la recherche, ils sont opérateurs d'instruments scientifiques pour le compte de la communauté scientifique de chercheurs qui est au sol, sur Terre. À 70% de leur temps, les astronautes donc activent toutes sortes d'appareillages scientifiques. Bien sûr, il faut changer les échantillons, les mettre dans des incubateurs, après dans des congélateurs. Parfois, l'astronaute est lui-même cobaye d'expériences médicales. Et 30% du temps qui reste consiste d'une part à faire du sport, 2 heures de sport par jour, et puis je dirais 20% du temps à entretenir la station spatiale en tant que maison et de la donc changer les pièces qui sont en fin de vie à l'intérieur, parfois à l'extérieur par des sorties dans l'espace, ou parfois simplement réparer quand il y a des pannes, puisque tout vaisseau spatial est complexe, et quand c'est complexe, il y a forcément de temps en temps des pannes.
Voilà, fin de ce résumé de l'actualité d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.